Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
ABD Podcast. Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je suis à Transfer, mon partenaire digitalisation, et comme d'habitude, je reçois un nouvel invité, et aujourd'hui, eh ben c'est Julien Colombo.
C'est ça.
Enfin, je suis content de te recevoir, Julien, parce que ça fait un moment qu'on essaye.
C'est vrai, ça fait un moment.
Et c'est toujours pareil. Les gens, quand ils sont bons, ils sont bien occupés. Et c'est ton cas. Julien est le responsable de la préparation physique à la Fédération française de basket.
Ouais, c'est ça.
C'est pas un petit poste, c'est pas une petite fédé, c'est pas une petite responsabilité. Très impliqué dans la formation continue des entraîneurs et des préparateurs physiques de basket, et puis aussi impliqué sur l'entraînement sur le terrain, puisque tu es à l'INSEP au quotidien, en tout cas c'est de là que
c'est
on
ça.
Se connaît.
On se connaît,
oui. Et évidemment, un des thèmes assez centraux en basket, mais j'ai envie de dire vraiment pas qu'en basket, mais c'est en basket, en sport de salle sur petit terrain, qu'on en parle beaucoup, et j'aimerais bien qu'on en parle dans tous les sports, sont les appuis.
Tout à fait.
Et alors, tu sais, Fred Aubert était venu en parler un petit peu sur cette antenne il y a quelques temps maintenant. Passionnant, comme à son habitude.
C'est sûr.
Et on n'en parle jamais assez, et de manière peut-être un petit peu plus pratico-pratique. Je pense que c'est vraiment bien qu'on fasse un point là-dessus. Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière les appuis au quotidien?
Alors, comme tu l'as dit,
le travail de pied, d'ailleurs.
C'est ça.
C'est comme ça que tu l'as formulé.
Le travail de pied. J'ai d'ailleurs écouté dans les podcasts que tu fais celui qui aborde un petit peu ce thème, mais qui est plus de la réathlétisation autour de la cheville. Mais pour moi, le pied, comme tu l'as dit, dans un sport comme le nôtre, le basket, mais je te rejoins dans le fait que c'est tout sport confondu, tous les sports qui sont en position debout doivent avoir une préoccupation autour du pied. Malheureusement, c'est quand même un peu limité dans les sports. Moi, j'avais une image, par exemple, en arrivant à l'INSEP, des athlètes comme étant les sportifs qui avaient le plus de pieds. Et en discutant avec les collègues, notamment…
Quand tu parles des athlètes, hein, tu parles de l'athlétisme.
Voilà, l'athlétisme, tout à fait. Les sprinteurs, etc. Pour moi, c'est des gens qui avaient énormément de pieds.
Ouais.
Et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré, mais parce que dans la lignée de Fred Aubert que tu as signé, qui est mon prédécesseur et qui était mon formateur, Fred avait cette sensibilité autour du pied par son vécu de coach d'athlète avant d'arriver dans d'autres sports et ce qui l'a amené au basket. Et moi, j'avais pour habitude de m'inspirer du travail que les athlètes font sur le pied. Mais en discutant avec mes collègues de la cellule de réathlétisation de l'INSEP, qui touche tous les sportifs, moi avec mon expérience de basketteur, j'ai été très surpris d'apprendre qu'au final, les athlètes n'ont pas tant de pieds que ça. Parce qu'ils font certes du travail sur le plan de réactivité du pied, mais quand on parle du pied, il faut savoir de quoi on parle. Et, Et moi, je trouve que c'est un élément central dans notre pratique. Et notre sport le justifie parce qu'on fait énormément de changements de direction, des accélérations, des freinages. Et tout ça est piloté par le pied. Et on a tendance à limiter le travail de pied, simplement, comme dans le podcast que j'ai écouté, autour de la réathlétisation, d'une blessure, etc.
Et ouais, je suis d'accord avec toi. Excuse-moi de te couper, mais ça phosphore un peu. Le pied, on a tendance à le prendre par le bout, effectivement, de la blessure. Donc, du coup, on monte le temps et on se dit, on fait un peu de prévention. Très bien, évidemment. Évidemment, toute la proprioception qu'il y a derrière, etc. Très intéressant. Il y a l'héritage athlétique. Et dans l'héritage athlétique, effectivement, on pourrait se dire que tous ces gens, intuitivement ou par leur parcours de pratique, ont un super pied. De la même manière que les volleyeurs ne savent pas sauter, les athlètes ne savent pas tous, n'ont pas tous conscience de leur potentiel de pied. Mais là aussi, c'est probablement lié peut-être un raccourci, c'est que la gamme athlétique n'est pas la totalité du travail de pied.
Tout à fait.
C'est ce que tu t'apprêtais à nous
dire. Tout à fait, exactement.
Et c'est hyper important de le dire parce qu'effectivement, l'héritage sport-co, qui a été évidemment intelligemment d'aller chercher des experts de la course pour nourrir leur préparation physique, ont chopé tout un tas d'éducatifs qui perdurent aujourd'hui, c'est tant mieux, mais qui ne sont que de petites.
Exactement.
Pièce du puzzle.
Exactement. Et donc, avec mes collègues au Pôle France, on a fait du pied un élément central dans les contenus qu'on aborde avec les jeunes basketteurs et basketteuses qu'on a, qui sont des gens en développement, donc avec qui on doit installer des bases pour leur vie professionnelle qui suivra derrière. Et donc, on a mis le pied au centre de nos contenus. Moi, j'en ai fait un fil rouge avec les équipes avec lesquelles je travaille. Et donc, pour te donner un exemple, on a fait des séances purement axées sur le pied. Mais donc, quand je parle de purement axées sur le pied, c'est sur les muscles intrinsèques du pied. Souvent, on se limite aux muscles extrinsèques autour de la cheville. Mmh. Et on ne va pas chercher les muscles qui sont sous la voûte plantaire.
Les muscles du pied.
Voilà, exactement. Et qui sont très importants. Et c'est cela qu'on néglige un peu trop. Et donc, on a fait des séances en début de saison, uniquement là-dessus, pendant une heure et quart, plusieurs fois par semaine. Et moi, j'y voyais plein d'intérêts, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des séances qui servent en elles-mêmes de prévention, puisqu'on éduque le pied, on renforce le pied. Et donc, qui dit avoir un pied plus fort dit prévenir des blessures. Mais c'est aussi avant tout un énorme gain d'efficacité dans les gestes qu'ils vont devoir effectuer sur le terrain. Et ces séances-là, pour moi, étaient aussi des préparatifs à tout ce qu'on allait leur demander derrière. Je ne pouvais pas concevoir, moi, de faire des séances de course, que ce soit des séances d'aérobie ou des séances de vitesse ou des séances d'agilité avec des changements de direction sans avoir préparé le pied à pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Donc, on en a fait énormément au début, puis après, ça s'allège un peu pour laisser place à des choses un peu plus poussées, comme je te l'ai dit juste avant. Mais maintenant, on a installé de vraies routines avec les filles au Pôle France et elles ont elles-mêmes pris conscience de l'importance de ce travail-là. Elles ont pris conscience de la pauvreté de leurs pieds. Certaines pensaient avoir du pied. Même si on a tenté de définir ce qu'est pour elle avoir du pied, elle limite ça à sauter haut ou réagir vite sur le terrain. Mmh. Alors c'est une définition qui s'entend, qui est peut-être un peu réductrice, mais au final, par des exercices simples, elles se sont rendues compte que les connexions entre le cerveau et le pied n'étaient déjà pas faites. Donc on a travaillé bien sûr forcément beaucoup pieds nus. Moi, je suis convaincu qu'on n'est pas servi par les chaussures et tous les équipements qu'on peut avoir au niveau du pied.
Bon, c'est une réalité spécifique qu'il faut embrasser à un moment donné, mais ça n'empêche pas de les enlever de temps en temps.
Dans notre sport, mais comme dans d'autres, je pense que les volleyeurs, c'est pareil, les handballeurs, c'est pareil. On a des semelles qui sont très plates, voire des semelles qui ont le bout légèrement relevé. Donc, ça veut dire que le bout des orteils n'est pas en contact avec le sol. Donc, comment demander à un athlète dans des chaussures pareilles de ancrer ses orteils dans le sol, avoir une action avec les orteils? On ne peut pas avec les chaussures. Et puis, c'est très rigide, même si maintenant, c'est vrai que ça commence à s'améliorer un peu. Le pied est moins bloqué dans la chaussure qu'il n'a pu l'être avant, avec des chaussures qui montaient très haut et qui étaient très tout en cuir, très rigide. Maintenant, c'est beaucoup plus de tissu, donc c'est mieux. Mais le travail d'amorti que la semelle et la technologie fait ne rend pas service aux pieds. Non. Donc, on travaille énormément pieds nus sur ces séances spécifiques-là, mais j'enlève aussi énormément les chaussures en salle de musculation, notamment parce que ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas avec des pieds enfermés dans une chaussure. Et puis, ça leur permet aussi de pouvoir vraiment activer les muscles dont on a parlé avant.
Tout un tas de réflexes, comme le réflexe ipsilatéral inverse, tout un tas de,
c'est ça,
de qualités musculaires qui font aussi la qualité de pied. Si on se résume, en fait, la qualité de pied, on peut essayer de la définir un petit peu. Il y a effectivement, on l'a dit, un axe d'équilibre proprioceptif, qui est très 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 développé effectivement dans tout ce qui est réathlé, prévention, réhabilitation fonctionnelle. Ok, c'est de la qualité de pied, c'est indiscutable. Il y a de la stabilité, avec la capacité à générer de la force constante au sol et quelque part une forme de préhension du sol pour c'est réussir à stabiliser tout le système. Et c'est là que c'est pas totalement faux quand les athlètes disent pour moi, la qualité de pied, c'est la capacité à relancer un appui, à sauter, à courir, à sauter horizontalement ou verticalement. Oui, c'est aussi ça, ça part de là, fatalement.
Bien sûr.
Seulement, peut-être que c'est ton extension de hanche et de genou qui fait 90% du boulot, et puis ton pied, cette espèce de sabot mort qui traîne au bout.
C'est ça.
Et c'est dommage parce que c'est l'inverse, c'est lui qui génère d'abord la puissance. Et puis, il y a la réactivité, on en a parlé aussi tout à l'heure, la réactivité du pied, notamment extrêmement développé par le travail d'appui athlétique, tout le travail de griffé, de rebond, de marche, jambes tendues, de pliométrie. De, voilà. Tout ça, effectivement, ça rentre dans la qualité de pied. Et puis, je vois un quatrième élément, peut-être que tu compléteras, je ne sais pas, là, je réfléchis un petit peu à votre, c'est le contrôle moteur et l'éducation du pied à être sollicité de manière variée depuis la voûte plantaire jusqu'au bout des orteils.
C'est ça.
Puisque, moi, je viens des sports de combat, tu sais que, surtout en jiu-jitsu brésilien, par exemple, on a les pieds sont presque des mains, on s'en sert pour. Ouais. Et donc, on a cette espèce d'éducation sur le contrôle moteur. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le reste n'est pas exploré. Hein. Il y a d'autres on n'a pas la problématique de la chaussure, mais on a moins d'appui aussi. Où on est sur un tapis plus mou, plus. Donc, ça pose d'autres soucis. Et tout ça, ça s'entraîne en fait, ça s'éduque. Je t'ai rappelé à l'ordre il n'y a pas très longtemps, tiens. J'avoue que je ne fais pas souvent, très souvent les fentes. Je ne fais pas très très souvent les fentes, j'ai peu de temps pour m'entraîner, j'aime bien mes squats, j'aime bien arracher. Pourtant, je dis, qui veut l'entendre sur cette antenne, faites des fentes. C'est important pour tout un tas de raisons. Eh bien, une des raisons, c'est le pied. Là, je me suis retrouvé à avoir des crampes.
Et oui,
puisque du coup, j'ai plus l'habitude de me stabiliser. Pourtant, je suis très fort des pieds, t'imagines bien. Mais pas dans ce registre-là. Or, c'est ça le registre de la course et du triple appui. Et du,
c'est ça. C'est,
donc, il y a plutôt intérêt à éduquer dans ce sens-là.
C'est ça. Et puis nous, la fente au basket, c'est un élément central dans le renforcement musculaire, puisque beaucoup d'actions commencent ou se terminent par une position de fente. Oui. Un départ en dribble, un freinage. On a beaucoup d'actions qui sont unilatérales. Et on a besoin de travailler de cette façon-là. Et donc, on utilise beaucoup la fente dans toutes les séances de musculation. Et la fente pieds nus, bien sûr, fait partie des choses qu'on fait énormément.
C'est quoi le rapport travail pieds nus, travail en chaussures dans ton approche ?
Alors, au début, je l'avoue, timidement retiré les chaussures de temps en temps. Sur des ateliers précis, sur le squat ou sur les fentes, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il n'y avait presque plus de justification à garder les chaussures, si ce n'est pour un aspect sécuritaire de ne pas se mettre...
Voilà, qui n'est pas négligeable.
Voilà, oui, bien sûr, il faut y penser. En plus, nous, on a des jeunes, donc il faut leur apprendre à bien se comporter dans une salle de musculation, à plusieurs, avec plein de gens en même temps, faire attention. L'aspect en chaussures, éviter de se mettre un haltère sur l'orteil, voilà. Mais si j'exclus le travail de pliométrie avec des rebonds et encore qu'on pourrait faire quand même pieds nus, il n'y a plus d'exercice où...
Et l'haltéro. Mais encore une fois, c'est encore autre chose. Il te faut des lifters. Tu fais pas en chaussures de basket.
Voilà, non. Elles sont clairement pas adaptées. Encore moins en running parce qu'elles ne sont pas stables. Ouais. Les semelles sont courbées, donc ça ne va pas du tout. Mais en dehors de ces quelques exemples-là, c'est devenu des réflexes. Moi, les filles viennent à la salle en claquettes, elles posent leurs claquettes sur le bord et elles sont en permanence en chaussettes, voire complètement pieds nus. Bon, après, certaines n'ont pas trop envie de montrer leurs orteils, mais si c'est les chaussettes, déjà ça me va.
Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussel-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années, et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
Oui, et puis bon, les aspects d'hygiène aussi qui peuvent s'entendre. Sur le plan sécuritaire, j'aime bien préciser ça aussi quand on travaille pieds nus. Ça passe par, je suis complètement d'accord avec toi, l'éducation, à faire attention. Okay. Si on enlève la chaussure, ça veut dire qu'on est très exposé et la blessure en salle en gym, en fitness, est inacceptable, évidemment. On a suffisamment d'occasion de se blesser sur le terrain pour ne pas se blesser dans le gym. Néanmoins, si on est bien prudent, il n'y a pas de raison qu'il se passe grand-chose. L'argument souvent qui m'est fait, c'est oui, mais si j'ai lâché un poids sur mon pied, que j'ai la chaussure ou pas, ce serait cassé. Alors oui, je connais la salle, vous avez des beaux disques hexagonaux en caoutchouc, donc c'est vrai pour ce type de disque. Si on a des disques de force, c'est un peu différent. Un disque de force bien fin, en acier de 25 kg, là c'est pas cassé, c'est tranché. Donc en fonction du matos qu'on a aussi, c'est vrai que j'aime bien mettre un petit bémol là-dessus. Dans mon ancienne salle au Cercle-Tissier avant, c'était beaucoup plus exposé à la blessure. Là, les gens se chaussaient, se déchaussaient en permanence.
Ouais.
Alors, c'était ça l'astuce. Dans mon nouveau centre à FitStation, t'es jamais venu d'ailleurs.
Il faut que tu passes
à FitStation.
Avec plaisir.
T'as adoré. C'est un peu différent puisque la zone de pratique poids et halter est assez balisée. Le reste, c'est kettlebell, mass trainer et machine et gym totalement guidée. Et du coup, dans tout ça, soit on est en lifter sur les plateaux, soit on est pieds nus en dehors. Donc du coup, ça règle un peu la problématique. Mais c'est quand même une problématique que j'aime bien soulever. Donc aujourd'hui, tout le monde en claquette. Tout le monde pieds nus.
C'est ça.
Comme des judokas.
Exactement.
Les basketteuses.
Exactement. Et puis voilà, c'est passé comme une vraie habitude. Et plus personne... ça devient même surprenant maintenant, celles qui vont garder leurs chaussures... Pourquoi tu as tes chaussures? Alors des fois il y a des justifications, mais c'est devenu beaucoup plus commun les gens en chaussettes que les gens en chaussures. Et je voulais revenir sur une chose que tu as dit tout à l'heure, notamment on fait beaucoup de profilage nous sur les athlètes pour orienter un peu le travail, savoir par quel biais rendre les athlètes plus performants. Et dans cette mouvance du profilage, chez les basketteurs, il y a une tendance assez importante qui est les valgus au niveau du genou, surtout chez notre public, grand, avec des longs segments. Donc Et on s'est rendu compte que après avoir vraiment voilà, identifié les valgus de façon assez aisée, on faisait un raccourci de le valgus provient d'un déficit des moyens fessiers. Parce qu'on sait que voilà, le moyen fessier est responsable du maintien des alignements.
Okay, mais c'est un vrai raccourci.
Et c'est un vrai raccourci parce que souvent, le genou va en valgus parce que le pied s'affaisse et entraîne le genou dans son affaissement.
Parce qu'on a une pronation de cheville. Quand
même. Voilà, exactement. Et donc, on situe le problème au-dessus du genou alors que souvent, il est en dessous du genou. Et de toute façon, chez nos basketteurs et dans tous les sports où voilà, l'articulation de la hanche est centrale, la triple extension genou, cheville, hanche est importante, c'est le genou qui est au centre des problèmes et qui va trinquer quasiment systématiquement les problématiques de tendinite rotulienne qu'on a beaucoup chez les basketteurs proviennent souvent d'une problématique de pied. Le pied n'est pas fort, donc c'est le genou qui va compenser, c'est le genou qui va absorber les forces que le pied n'est pas capable d'absorber, et donc on déclenche des pathologies parce que le pied n'est pas assez fort.
Ouais. C'est d'autant plus dommage que tout à la fois, c'est un élément hyper facile à entraîner. Ouais. Je trouve que le pied progresse très vite. Bon, alors évidemment, fort jusqu'où, mobile jusqu'où, c'est toujours la question.
C'est ça.
On peut toujours se transformer en singe et avoir des pieds ultra agiles, etc. Et jouer du piano avec les orteils. On peut aller loin dans le délire. On n'a pas besoin de tout ça. Néanmoins, pour avoir la force nécessaire à contrôler une triple extension, une triple flexion, et des générations de puissance relancées dans une activité infiniment plus complexe, comme le basket, en quelques semaines déjà, tu le disais d'ailleurs, tu le sous-entendais tout à l'heure, ce premier filtre-là, il te permet déjà d'écrémer 90% des problèmes.
Et c'est ça. Ouais.
Je ne suis pas surpris. Le deuxième élément, qui est vraiment dommage quand on n'est pas éveillé à tout ça, c'est le rôle de la génération de force de ce pied. C'est-à-dire que même si sur un pied sain, sur un pied qui n'a pas ses problèmes de faiblesse, on va dire, ou de qualité, le fait de se mettre pieds nus fait qu'on va soulever plus lourd, fait que, ou si on a une semelle très rigide comme un lifter, fait qu'on va générer plus de puissance. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est pour ça que les powerlifters, ils ont des petits mocassins, c'est comme on avait quand t'étais petit à la gym, là, le minimum possible d'isolation entre le pied et le sol pour générer un maximum de réflexes de contraction, activer au maximum les chaînes musculaires. Vous savez que la chaîne postérieure, elle prend son ancrage sous la voûte plantaire. Donc, quand on veut être fort en soulevé de terre, c'est mieux de ne pas être en chaussures de basket.
Et ouais.
Forcément, on gagne quelques kilos immédiatement, automatiquement. C'est encore de la marge d'entraînement. Donc, cette éducation au pied, moi, je le remarque, tu sais quoi, je le remarque dans les sports de puissance, justement, et de force, dans les poids et haltères. J'en parlais avec Kevin Casemaker l'autre jour, qui était pendant des années un de mes athlètes, qui aujourd'hui est un collègue entraîneur à l'haltéro et formateur, et très impliqué dans le crossfit. Très peu de gens coachent les appuis en haltéro. On va te parler de tu m'as entendu coacher sur les appuis. On entend parler de trajectoire de bas, on entend parler de rythme, alors les premiers, deuxièmes tirages, on entend parler de passage, de chute. Personne te parle de ces bons dieux de putain d'appui. Putain, tout part de là. Si t'épaules en talon, tout du long, comme tu ferais un swing ou un soulevé de terre, comme font beaucoup de gens puisqu'ils viennent souvent des mouvements plus simples, tu ne génères pas de puissance en fait. Et tu n'arrives pas à appliquer toutes les autres consignes techniques. Je pense que c'est pareil en saut. Si tu ne coaches pas les appuis sur quelqu'un à qui tu cherches à apprendre le saut, il n'arrive jamais à sauter. Il fait du valgus, il fait de la réception incontrôlée au niveau du genou, inconstante. Tu vois, on n'arrive pas des fois à faire vous faites les profils force-vitesse un peu
On va s'y mettre.
N'hésite pas, on en parle avec grand plaisir. Tu sais que j'ai beaucoup travaillé là-dessus au volet. Ouais. Et notamment avec mon pote JB Morin, on a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. On continue à le faire sur l'haltéro. Et le problème qu'on avait, c'est que quand les gens ne savent pas sauter, tu n'arrives pas à faire ton profil. Quand les gens n'ont pas de pied, ils ne savent pas sauter. Ils ne savent pas atterrir. Donc, du coup, un coup, ils sautent droit, un coup, ils sautent devant, un coup, ils sautent sur le côté. Puis tu t'arraches les cheveux, tu dis, mais pourquoi j'arrive pas à faire ce putain de profil? Ben, c'est normal, il me fait jamais le même saut.
Et, ouais.
Et il me fait jamais le même saut parce qu'il sent pas ses pieds.
C'est ça. C'est ça. Mais tu vois, même dans des apprentissages, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des jeunes, donc on pose des bases. Dans l'apprentissage du squat, on a chez nous sur le tableau écrit longtemps, même si depuis ça a disparu, mais les cinq piliers du squat. Le premier, c'est l'ancrage du pied dans le sol. Et ça, c'est une base. Et après, cette action de torque pour... ça part aussi du pied. Si le pied n'est pas ancré, on ne peut pas travailler. Et donc, le squat ne peut pas être bien réalisé. Mmh. Ils savent maintenant, il y a la fixation des omoplates, etc. Oui, mais avant tout ça, c'est j'ancre mes pieds dans le sol. Pour le développé couché, pareil, j'ancre mes pieds dans le sol. Et après, tout le reste va s'installer à la suite de ça.
Donc, tu génères la force, tu l'isoles, tu la transmets.
Exactement.
Et les gens qui ne sont pas éveillés à ça, une des conséquences, on parlait de la technique, mais qui va être encore plus gênée par l'autre conséquence que je vais citer, c'est la charge. C'est-à-dire que pour avoir un résultat satisfaisant et se dire « Oh, dis donc, j'ai bien travaillé dans ma série », eh bien, on rajoute des galettes. On charge. Les comptes, on plie encore moins bien les genoux, on fixe encore moins bien le dos, on se penche de plus en plus vers l'avant.
C'est ça, exactement.
On fait un squat de plus en plus laid, de plus en plus inefficace dans son transfert, de plus en plus lourd au niveau de la contrainte mécanique, ou par le nombre de reps ou par la charge, alors qu'il suffisait simplement déjà de bien coacher le pied pour fermer tout ça, et finalement, peut-être qu'avec une mignonne barre de 50 kg, on aurait eu un résultat bien supérieur à nos 130 kg qu'on a chargé sur le dos comme des brutes.
Tout à fait.
Quel dommage. Et c'est pareil en course et en déplacement sur le terrain.
Exactement. On parle, enfin, les athlètes parlent de l'économie de course. C'est pareil. Pour moi, c'est clairement le travail du pied qui va faire que la course est efficace, elle est moins coûteuse en énergie. Et du coup, on garde un peu plus de réserve pour pouvoir faire plus longtemps les choses.
Ou plus de qualité.
Voilà, exactement.
Ouais. Exactement. Bon, écoute, c'est vraiment passionnant, très concret en plus. Je pense que là, ça ouvre quand même des perspectives assez nettes sur ce qui est possible de faire. Si on se résume, coacher le pied, éduquer les gens à s'en servir de ce pied-là, travailler pieds nus.
Pieds nus.
Développer le renforcement des muscles, non pas seulement de la cheville, mais... les muscles du pied à proprement parler. Hein. On peut aussi travailler le grip du pied,
tout
des
à
orteils,
fait. Hein, ouais, tout à
les
fait.
Ouais. Les athlètes, les triathlètes pour le coup le font très bien, les coureurs de trail. Donc des perspectives très concrètes, super. Vraiment merci d'avoir partagé ça avec nous, Julien. Julien Colombo sur les réseaux sociaux, principalement sur vous trouvez partout, mais là où il vulgarise le plus, c'est sur Instagram.
C'est ça.
Donc, n'hésitez pas à aller le suivre. Si vous êtes dans le basket, évidemment, la filière de formation de la Fédé est particulièrement dynamique. J'y interviens tous les ans sur le diplôme spécifique prépa physique basket.
C'est ça.
Et puis, tu connais le chemin maintenant. Tu reviens quand tu veux.
Avec grand plaisir.
Merci à tous pour votre disponibilité d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez vous former davantage, peut-être explorer un peu plus la préparation physique, mais aussi la récupération ou la nutrition du sport. Je rappelle que Transfer propose la 3PS, une certification particulièrement recommandable. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. À très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.